Chapitre 10. La misère dorée. Les examens de l'école des langues orientales vivantes avaient lieu 8 jours après. Voilà, se dit Jacques, les premiers craquements de l'édifice. Le moment de l'éboulement n'est pas loin. La veille de ce grand jour, il abandonna Montmartre en envoyant à son cousin une lettre. Non pour excuser, mais pour expliquer sa conduite, et il vint rejoindre ses amis qui avaient loué un petit appartement meublé rue de Provence. Il ne devait plus les quitter.
« Qu'est-ce que vous allez faire, mes pauvres enfants ?»
dit Caroline, lorsque le soir de l'arrivée de Jacques, ils se trouvèrent réunis.
« Ce que nous pourrons, »
répondit Foulogne.
« Mais que nous importe, puisque nous serons libres ?»
Pourquoi Jacques et Foulogne, l'un avec la vivacité pénétrante de son esprit, l'autre avec un certain sens pratique des choses qui traversaient ses accès d'enthousiasme, se jetèrent-ils follement dans cette existence sans issue qui pouvait aisément devenir sans dignité ? Bien des motifs se présentent à l'esprit. Jeunesse, paresse, amour. Mais cette énumération serait incomplète et cette analyse serait inexacte si je ne nommais tout d'abord ce qui les entraîna, ce qui longtemps les soutint, l'espérance. Ce qu'à cette époque ils conçurent et nourrirent d'illusions est quelque chose d'inouï. Ils crurent réellement et de bonne foi que le monde allait être à eux, qu'ils allaient y marcher en maître dans leur audace et dans leur liberté. Et dès lors, ils ne virent plus rien sous son aspect vrai. Ils posèrent sur toutes les laideurs de la vie le voile éclatant de leurs illusions. Ce sont là des gageurs qu'à 30 ans, il serait imprudent de tenir et que très assurément on perdrait. Il faut pour s'y risquer beaucoup d'inexpérience alliée à beaucoup de courage. Ne pas se croire faible, ne pas se croire seul. Ils se sentaient 3 et leurs forces, surtout dans le commencement, furent décuplées par le contact journalier. Lorsque le soir, Émile et Jacques se trouvaient auprès de leur feu, quand il y en avait, après leur misérable besogne de la journée et leurs repas plus misérables encore, ils n'avaient ni la pensée, ni le plaisir, ni le loisir de s'attrister. L'un à l'autre et tour à tour, ils se répétaient leurs chimères. Ils se confiaient leurs espoirs. Ils se soumettaient le modèle capricieux et changeant de leurs châteaux en Espagne. Puis à 11 heures, ils devenaient silencieux et attentifs. Un coup de marteau retentissait à la porte d'en bas. On entendait dans l'escalier un bruit de pas et le froufrou d'une robe. La clé de la chambre tournait comme d'elle-même sous une main amie et Caroline entrait. Ce n'était qu'un instant. Cette courte et chère entrevue était aussitôt finie que commencée. Mais quel bien elle leur faisait à tous. Comme elle les retrempait. Comme leur foi mutuelle s'en trouvait redoublée. On ne se parlait guère, mais c'était des serrements de main, des rires joyeux sans cause, des regards qui démentaient cette gaieté en se voilant de larmes. C'était un mélange indicible d'allégresse et d'anxiété. Quelles que fussent les paroles de Caroline, au fond elle voulait dire ceci.
« Mes pauvres enfants, que la journée a dû vous paraître longue, quel déboire vous avez essuyé. Quels affronts vous avez dévorés peut-être, et tout cela pour ne point vous éloigner de moi, pour m'apercevoir pendant cette minute fugitive, qu'elle vous paie au moins vos souffrances, et puissiez-vous comprendre par le timbre de ma voix et par l'éclat de mes yeux la joie délicieuse et les déchirements suprêmes de mon cœur. »
Mais eux, l'amant et le frère, leurs paroles aussi en cachaient, en contenait d'autres. S'ils l'avaient osé, ou plutôt s'ils en avaient eu nettement conscience, ils lui auraient dit. Sœur chérie, ange de bénédiction, lorsque tu entres dans cette chambre, avec toi y entre pour nous la lumière et la vie. Avec ton arrivée, la journée commence. Avec ton départ, elle finit. Laisse tes mains dans les nôtres. Réchauffe-toi, frileuse amie, à notre foyer modeste, et le plus longtemps que tu pourras. Car lorsque tu seras parti, il fera sombre ici. Il fera cruellement froid.
Elle demeurait avec eux environ un quart d'heure. Puis il fallait les quitter. Elle descendait rapidement avec Jacques et, quand ils étaient tous les deux sur le trottoir de la rue de Provence, ils se regardaient avec des yeux pleins de larmes et faisaient doucement quelques pas.
« En voilà donc, » lui disait-il, « pour jusqu'à demain soir. »«
Tais-toi, malheureux, » répondait-elle, « ne gâte pas ta joie. »
Et s'il essayait de répliquer, elle lui imposait silence en lui appliquant un doigt sur les lèvres. Elle le regardait encore avec tendresse, et lui prenant la main, elle disait
« Courons !»
Et ils allaient à toute vitesse, s'étourdissant à l'envi jusqu'à ce que fatigués, épuisés, haletants, ils vinssent s'arrêter brusquement devant le magasin de Caroline. Alors, avant que Jacques fût remis de sa course violente, il sentait une chaude haleine lui passer sur les yeux, des lèvres brûlantes se poser sur son front, et il essayait encore de retenir Caroline qu'elle avait déjà frappée, et que de sa voix claire et jeune, elle lui avait crié
« Mon Jacques, à demain !»
Il y avait aussi les dimanches, qui étaient de véritables fêtes. Jamais un si complet rayonnement de gaieté n'éclaira une chambre plus nue, des existences plus nécessiteuses. Il y avait dans ces trois âmes, à ce moment-là, un foyer de tendresse qui éclairait, qui réchauffait tout. C'est là ce qui distingue l'histoire de Jacques, telle qu'il me l'a racontée, de mille autres histoires à peu près pareilles. C'est cette union bizarre, touchante souvent, grande quelquefois, cette confusion risible et sacrée d'amitié, d'amour et d'espérance. Ces trois cœurs exaltés et fiers volaient très haut contre le vent, par-dessus les obstacles. Lorsque, du matin au soir, dans la vie, tout est difficulté, tout est combat, lorsque c'est la sécurité qui est l'exception, lorsque le repas quotidien est une victoire, oh, alors les choses les plus simples deviennent de ravissantes douceurs. Dès qu'on a le nécessaire, on se croit des sybarites. Dès qu'on a un peu de repos, un peu de bien-être, on craint de s'endormir en de molles délices. Le monde entier, pour eux, tenait dans leur étroite chambre. Ils en étaient arrivés à cette familiarité complète qui supprime les explications et les commentaires. Ce que l'un voulait, les autres le voulaient également. But et moyen. Ils étaient parfaitement d'accord sur tout, mais cela ne les réconciliait pas avec le monde et ne leur ouvrait pas la société que volontairement ils s'étaient fermés. De ce côté-là, l'abîme se creusait chaque jour davantage. Leur isolement devenait un exil. Ce qui était au début une résolution courageuse, mais folle, se transformait en une sorte de châtiment. Ils avaient nié le réel. Ils allaient en être accablés. Comment vivaient Émile et Jacques? C'est ce que j'ai demandé plus tard, et plus d'une fois à Jacques lui-même.
« Que veux-tu que je te dise ?» me répondait-il.
« Demande à un homme qui est tombé à la mer et que les flots rapportent au rivage, comment il a fait et pourquoi il est sain et sauf lorsque 100 fois il devrait s'être noyé. Quand je regarde ces années-là, maintenant que je sais mieux la vie, je me demande comment nous avons pu les traverser tous trois sans mourir ou sans nous corrompre. Émile donnait quelques répétitions quand il en trouvait. Il était commis voyageur pour des maisons qui vendaient des denrées impossibles. Nous avons fait des prospectus, travaillé à des biographies, à des dictionnaires. J'ai écrit dans des journaux de province des articles de critique.
Caroline touchait 100 francs tous les mois et les apportait bravement à notre budget, dont ils ont souvent constitué l'élément le plus solide et dont ils ont toujours été le pivot. Et puis il y a tout ça que j'ai oublié, tout ce qui ne semble rien et qui est beaucoup. Un monsieur de votre pays qui vous rencontre et qui vous emmène au restaurant. Un ami de collège qui vous mène au café. Ceux qui s'intéressent à vous et qui vous prêtent 10 francs. Ceux que vous importunez et qui vous prêtent 40 sous. Les camarades qui réalisent un gain inespéré et qui vous convient à une noce. 1000 bonnes chances qui passent, qu'on oublie et qui, cependant, en s'ajoutant les unes aux autres, ont contribué à vous faire vivre. Au fond, Émile et lui poursuivaient ardemment un but, entrer dans le journalisme, ou plutôt dans un journal.
« La presse est une épée !»
disait Foulogne. Il y avait cependant des jours où elle était un flambeau, d'autres où elle était un drapeau, et quelques-uns, plus rares, où elle était un autel dont l'écrivain était le sacrificateur.
« Regarde-moi ça !»
disait-il à Jacques.
« Est-ce pâteux ? Est-ce incolore ? Ont-ils assez peur ? Ils trahissent notre cause. Ah, mon ami, le jeune journalisme aura-t-il son heure ? Nous sommes pourtant une noble phalange, mais les vieux nous craignent trop pour nous employer. »
Et le pauvre garçon retombait dans ses désirs impuissants, dans ses regrets stériles. Il n'avait pas dans l'avenir de Jacques moins de confiance que dans le sien. Quoiqu'il trouvât la littérature une chose frivole et qu'il regrettât de ne pas lui voir employer son esprit dans la politique et dans le pamphlet.
« Regarde Hugo !»
disait-il.
« Regarde Lamartine ! Ils ont commencé par la littérature, mais ils en sont venus maintenant à la politique. Commence tout de suite par où ils ont fini. »
Puis, continuant,
« Tu devrais faire du Paul Louis, ça tirait joliment. Ou bien encore... »
Et il s'arrêtait.
« Du Joigneau, mais c'est diablement difficile. »
Le journal ne venait ni pour le rêveur politique, ni pour l'historien futur. Mais au moment où il commençait à se désespérer, il leur arriva bonne fortune, et dans leur destinée assez sombre, il y eut une éclaircie. Depuis que Jacques, pris en flagrant délit de mensonge, s'était enfui de Montmartre, Madame Chevalier avait absolument rompu avec lui. En voyant ce fils, pour lequel elle avait rêvé une carrière sûre et brillante dans l'université, vivant d'une vie assez difficile à qualifier, avec un garçon qu'elle n'aurait pas hésité à appeler un farceur et une jeune fille dont elle aurait fait indifféremment une coureuse, une sauteuse ou une rien du tout, elle avait été prise d'une déception pleine de douleur et de colère. Jacques avait essayé de la toucher, mais inutilement, elle ne lui avait pas répondu. Cependant, insensiblement, l'irritation s'était calmée. L'absence avait fait son œuvre. La blessure s'était cicatrisée et Jacques, dans ses lettres, s'était montré si amoureux, si pressant, si adroit. Il avait si opiniâtrement affirmé que de son mariage daterait pour lui une nouvelle période de travail et de succès qu'elle s'était sentie ébranlée et un peu attendrie et, sans se prononcer clairement, elle avait consenti à entrer en discussion. Une lutte se livrait en elle. Quand elle pensait à ses anciens projets, elle voulait refuser et sauver son fils du gouffre où il donnait tête baissée. Elle voulait, au contraire, consentir quand elle se disait que ce fils n'était pas ce qu'elle avait espéré, digne des hauts emplois, quand elle se rappelait combien il était impropre aux affaires de la vie, faible, malhabile, embarrassé. Quand elle pensait aux souffrances de l'isolement, plus cruelles encore pour lui que pour un autre. Cependant, elle ne consentait pas, et quoiqu'elle fît tous ses efforts pour se persuader elle-même que, guidée par une femme, il serait moins malheureux que tout seul, et que, à tout prendre, dans sa position,
il valait mieux qu'il choisît une jeune fille ayant éprouvé la vie, faite au travail et connaissant le malheur, qu'une enfant sans expérience, sans force et sans volonté. Elle hésitait encore, reculait toujours, et ne prononçait pas le « oui » si impatiemment attendu. On en était là lorsqu'un soir Jacques reçut une lettre. Elle était de Madame Chevalier. Sans précautions oratoires, elle annonçait pour le surlendemain son arrivée à Paris. À minuit, lorsque Caroline vint, selon sa coutume, et qu'on lui communiqua cette nouvelle, elle poussa des cris de surprise et d'effroi, et montra un effarement qui gagna bientôt les deux amis.
« Comment ? » leur dit-elle. « Vous êtes là, tranquille, et vous me contez cela comme une chose naturelle ? Mais avec quoi la recevrons-nous ? Vous n'avez pas un habit, et je n'ai plus une robe. Qu'est-ce que nous allons devenir ?»«
Il faudrait masquer la situation, »
dit Foulogne.
« Avec quoi ?»«
J'irai demain chez Loucheux, »
continua Émile.
« Et en lui cédant nos derniers droits dans la succession de notre père, il nous donnera peut-être 300 francs. »
C'était une triste ressource, mais aussi la bataille qu'on allait livrer était décisive. Caroline indiqua parfaitement la nuance.
« De la pauvreté, c'est bien, » dit-elle, « mais pas de gueuserie. »
Madame Chevalier arriva comme elle l'avait annoncé, et les deux jours qu'elle passa à Paris, elle les consacra à étudier Foulogne et surtout Caroline. Quand elle repartit pour Rouen, elle dit à son fils, qui attendait sa décision avec toute la fièvre de l'inquiétude et toute l'impatience de l'amour,
« Cette jeune fille est vraiment très bien. »
Mais malgré les prières de Jacques, elle ne voulut point en dire davantage ce jour-là. Cependant, c'était déjà un grand point. Et quand Jacques rentrant rapporta cette bonne parole, il y eut une explosion de joie.
« Allons, mon Jacques !»
dit Caroline en lui tendant la main.
« Je serai ta femme, et bien décidément, l'avenir est à nous. »
La perspective parut moins sombre, et l'on se reprit à espérer de plus belle, en attendant le consentement formel et définitif de Madame Chevalier. Les circonstances se faisaient plus favorables. Caroline avait obtenu une augmentation d'appointements, et l'hiver, ce rude et cruel hiver dont ils avaient eu tant à souffrir, touchait à sa fin. Il y avait déjà des journées sans pluie et sans brouillard, et l'on pouvait risquer une promenade au bois de Boulogne. Les dimanches aussi étaient non pas plus gais, mais plus bruyants. Caroline, qui était très liante, avait amené des camarades de magasin, et tous riaient, criaient, chantaient et dansaient. Lorsque cela était possible, on en gardait une ou deux des moins raisonnables à dîner. La semaine était également moins triste. Émile et Jacques avaient inventé, ou plutôt conquis, le café du Coq Gaulois, et ils avaient désormais un endroit où passer leurs soirées, et bonheur plus grand, où lire les journaux. Jacques jouit moins qu'Émile de cette bonne aubaine, mais cependant il partagea aussi cette sorte d'engourdissement agréable que donne la vie de café. Un dimanche que Caroline avait amené tout son monde avec elle et que la chambre était pleine de jeunes filles espiègles et rieuses, on entendit sonner à la porte. Jacques alla ouvrir, et un grand jeune homme très bien mis, à la physionomie dédaigneuse et sensuelle, aux traits bien dessinés mais fatigués, à la lèvre gouailleuse, aux allures d'homme d'esprit viveur, entra délibérément.
« On vous retrouve enfin !»
dit-il aux deux amis.
« Ce n'est pas malheureux !»
C'était Arthur Chaise-Martin. Il s'arrêta brusquement en apercevant deux jeunes filles.
« Ah ah !»
fit-il.
« On est en bonne compagnie !»
Au même instant, la porte du cabinet s'ouvrit. Et Caroline sortit accompagnée encore d'une nouvelle jeune fille. Chaise-Martin se mit à rire, mais il s'inclina très convenablement lorsqu'Émile, tenant Caroline par la main, lui dit
« Je vous présente ma sœur. Ah, ça !» Mais, mon cher Jacques,
s'écria Arthur,
vous m'aviez fait connaître monsieur.
Il montra Émile.
Et je vous en remercie. Mais vous ne m'aviez pas parlé de mademoiselle, et j'ai le droit de vous en vouloir.
Comment Chaise Martin tombait-il aussi inopinément rue de Provence, et se trouvait-il si vite en pleine familiarité avec les deux amis? C'est ce qui mérite quelques mots d'explication, car ce fait, en apparence insignifiant, eut pour le reste de la vie de Jacques de terribles conséquences.